Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
Secrétaire d'État chargé du numérique, ce sera mercredi prochain, le commissaire européen Pierre Moscovici livrera ses propositions pour mieux taxer en Europe les grands groupes, notamment les grands groupes américains du numérique accusés d'optimisation fiscale agressive. Vous en espérez quoi ?
En tout cas, il faut se dire que la France est mobilisée depuis longtemps, parce que ces plateformes, elles sont partout dans nos vies. Elles sont là quand on achète en ligne, elles sont sur les téléphones qu'on a avec nous partout, elles sont là dans l'information que nous recevons. Ces plateformes, elles jouent de plus en plus un rôle extrêmement important dans l'économie, dans la société. Et donc aujourd'hui, la chose qu'on dit assez simplement, c'est qu'elles ont une responsabilité. Et cette responsabilité, elle passe par une responsabilité fiscale, parce que personne ne comprend qu'elles fassent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et en Europe, et pourtant ne paye quasiment pas d'impôts. Il y a quelque chose d'incompréhensible pour tous les peuples d'Europe.
Cela dit, il y a des pays en Europe, l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, les Pays-Baltes, Chypre, qui les accueillent parce qu'ils ont une tradition de fiscalité accueillante. Comment on va changer ça ? Comment la France et Bruxelles peuvent convaincre ces pays-là ?
Bien, ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, c'est qu'il commence à y avoir une discussion très franche avec les pays européens qui ont profité pendant longtemps d'un décalage très fort de niveau d'imposition et qui ont permis des montages, qui ont permis l'évitement fiscal de ces grands acteurs internationaux. Eh bien aujourd'hui, la discussion elle est franche, elle est plutôt l'idée, comme on dit en anglais, dirigée par la France, grâce à Bruno Le Maire, qui depuis plusieurs mois porte cette initiative au niveau européen. Mais la fiscalité, ça n'est qu'un des aspects. On ira jusqu'au bout. Il y a le sujet au CDE. Il sera réabordé au prochain G20.
Oui,
il
sauf que le G20 a un calendrier bien plus long que celui que souhaitent Paris et Bruxelles.
C'est pour ça que nous avons décidé d'accélérer le calendrier européen, de ne pas attendre, qui était la proposition des États-Unis et des plateformes, de dire, attendez, une solution au CDE va arriver. On dit oui, mais cette solution, elle va peut-être mettre 5 ans. Et bien, comme on n'a pas envie d'attendre ces 5 ans, on a besoin d'aller vers une solution maintenant. Les gens supportent pas l'idée que ces entreprises qu'on aime tous parce qu'on les utilise, ils feraient pas des milliards d'euros si les gens n'utilisaient pas leurs services. Donc leurs services sont de qualité.
Oui, mais
la seule chose qu'on souhaite, c'est qu'ils payent des impôts et qu'ils se rendent compte de la responsabilité qu'ils ont aussi sur l'économie et dans nos vies.
Il y a leur responsabilité, il y a aussi à ces GAFAM, enfin je retire le M de Microsoft parce que ça ne le concerne pas, je crois, en France, hein, pour la taxation.
Ça dépend de leurs produits, ils ont plusieurs.
Derrière cette agressivité fiscale des GAFAM, il y a aussi leur position de force quand Google, Apple, Amazon, Facebook nous imposent leur propre circuit dès que l'on veut acheter sur Internet. C'est aussi ça qu'il faudrait changer. Et les Européens, est-ce qu'ils ont perdu cette course-là déjà ?
Alors, aujourd'hui, les législateurs européens, les peuples d'Europe, tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de bizarre. Vous vous rendez compte, ces plateformes, souvent je les appelle des prisons dorées. Dorées parce qu'elles sont très attirantes, très belles, vous rentrez dans le système, vous achetez un des appareils, et une fois que vous achetez un des appareils, eh bien, vous rentrez dans un circuit très limitant, c'est-à-dire que si j'ai acheté l'appareil de marque Golgotha ou Apper, eh bien, ensuite, je ne peux accéder qu'au magasin d'applications.
C'est l'interopérabilité qui n'est pas respectée.
C'est l'interopérabilité qui est interdite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces magasins d'applications, si vous n'avez pas été validé par la marque qui vous a fourni votre appareil, eh ben, vous pouvez pas acheter à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est même eux qui vont décider une partie du prix. Et puis, c'est même eux qui vont décider de vous supprimer du magasin d'applications du jour au lendemain. Et donc, ça, c'est quelque chose qui devient de moins en moins acceptable, ou en tout cas, qui pose un problème dans l'équilibre porté entre ces plateformes et l'économie. Donc, il y a cette plainte qui a été déposée par le ministre de l'économie au nom de la France. Mais il y a aussi un travail qui est fait au niveau de la commission. Communication sera faite par la Commission dans les prochaines semaines. J'attends cette communication avec impatience puisqu'elle va porter le regard européen sur ce que nous souhaitons imposer aux plateformes dans le cadre de leurs relations économiques avec les PME. Parce qu'aujourd'hui, une PME qui travaille avec Google, objectivement, elle ne peut rien lui dire. Elle ne peut pas lui écrire, on ne saura pas de réponse. Il n'y a pas de téléphone où elle peut dire « je ne suis pas d'accord ». Il n'y a rien. Donc soit elle paye, soit elle ne paye pas. On n'a pas le choix de discuter.
Il faudra quand même bien convaincre ces sociétés-là d'être à l'écoute des doléances européennes. Ça se fait comment ?
Eh bien, ça se fait par le droit. Le droit, c'est aussi fait pour cela. Et le droit, c'est une façon pour les démocraties, pour les peuples, de s'exprimer par leurs dirigeants et de dire à ces plateformes, écoutez, on vous aime bien, c'est formidable que vous nous fournissiez ces services qui sont dans nos vies, ces appareils qui sont dans nos vies, mais il y a une petite série de règles qu'on aimerait que vous respectiez.
Un mot encore sur les taxations que le commissaire européen Pierre Moscovici devrait annoncer à partir de mercredi. La fourchette, c'est entre 2 et 5%, c'est ça le volume sur les revenus des grandes sociétés, hein.
Vous savez, dans la fiscalité, il y a toujours deux chiffres importants, la fourchette et l'assiette. Et donc, un taux que vous venez d'indiquer, qui serait dans ces chiffres-là, on entend 3, on entend 4, on entend 2. Et de l'autre, il y a l'assiette, c'est-à-dire sur quelles activités on irait taxer. Sur l'intégralité du chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires publicitaire, est-ce qu'on taxerait qu'à partir d'un certain volume à l'international. Donc, tous ces détails, c'est ce sur quoi M. Moscovici, commissaire européen aux finances, va faire une déclaration et va être clair. La France l'a déjà dit, nous on souhaiterait une assiette la plus large possible, c'est-à-dire sur l'intégralité du chiffre d'affaires de ces plateformes, et on souhaiterait un taux qui est dans ces fourchettes-là. Donc aujourd'hui, on attend la position européenne, la France réagira, mais en tout cas on est particulièrement engagé.
Alors très attendu également le mois prochain, ou peut-être à la fin de ce mois de mars, le rapport du député Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, avec à la clé des transformations tous azimuts, transformations profondes dans l'emploi, dans l'écologie, dans l'industrie, dans l'administration. Qu'est-ce qui est en jeu derrière ces deux mots, intelligence artificielle ?
Intelligence artificielle, si on le définit simplement, c'est tout ce que vous avez connu du numérique depuis 30 ans, fois 1000. C'est-à-dire que tout le progrès qui a été permis par le numérique va aller encore plus vite et va apporter encore plus de bienfaits et de dangers. Le bienfait, ça veut dire que demain, grâce à l'intelligence artificielle, et quand je dis demain, c'est vraiment dans les mois qui viennent, on va encore plus être capable de diagnostiquer des cancers plus tôt. On va encore plus être capable de faire des traitements ciblés sur les cancers. Ça va pouvoir sauver des vies, ça va pouvoir nous permettre de faire des économies, ça va nous permettre de vivre mieux. La voiture autonome, elle ne sera possible que grâce à l'intelligence artificielle. La voiture autonome, ça veut dire le matin, je sors de chez moi, je prends ma voiture, je lui dis où je vais, plus de bouchons, plus d'accidents, plus de bruit, plus de pollution.
C'est un peu un monde rêvé, parce que la réalité ne sera peut-être pas ça non plus.
À l'idéal, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle aura poussé et où tout le monde utilisera ses véhicules. Ce sera ça la vérité, ce sera ça notre avenir. Mais l'intelligence artificielle, c'est aussi fois 1000 sur les dangers. Ça veut dire, sur les armes autonomes, se poser des nouvelles questions. Ça veut dire, sur les questions éthiques, sur la nature de la machine et de sa relation à l'homme, se poser la question de ce que nous souhaitons et de ce que nous ne souhaitons pas.
Ce sont donc des questions éthiques qui soulèvent légitimement des craintes, voire des peurs chez certains Français. Comment est-ce que la France compte y répondre à ces craintes ?
Ce rapport et la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle qui sera présentée par le président de la République et le gouvernement, eh bien, elle traitera de ces sujets. Vers quoi on veut aller ? Comment on fait pour être très bon sur les sujets qui vont avoir de l'impact sur l'intelligence artificielle ? On veut être les premiers dans le monde sur la santé grâce à l'intelligence artificielle, sur le transport. Et aussi, comment on fait pour avoir des chercheurs de très haute qualité ?
Parce qu'il faudra les garder, nos chercheurs en France.
Il faut les former. Il faut les garder et il faut que quand ils restent, ils puissent chercher dans les meilleures conditions. À tout ça, on va répondre. Il y aura la question de comment nos industries, comment nos entreprises, elles utilisent l'intelligence artificielle. Comment on s'assure qu'on a bien des fournisseurs d'intelligence artificielle qui vont aider les industries, qui ne sont pas des industries d'intelligence artificielle, mais qui vont en avoir besoin, et s'assurer que ces fournisseurs ne sont pas tous américains, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis, il y a la troisième question que vous abordez, qui est celle de l'éthique, des limites, des frontières. Voilà, là on n'ira pas, là on ira, et sur cette question-là, on se revoit dans 5 ans. Et puis il y a un sujet plus global qui va être le sujet des prochains mois, les données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données.
Qu'est-ce qu'on fait ? On les vend, on les vend pas, on les garde, on les fait disparaître.
Alors il y a les données personnelles, mais il y a aussi les données industrielles. Et par exemple, sur la santé, sur le transport, on a besoin de jeux de données massifs. Aujourd'hui, ces données, elles sont plutôt détenues par les fameux GAFA dont vous parliez tout à l'heure. Ou alors, par certains pays qui, dans leur relation avec leurs propres GAFA, c'est dur de voir la limite et les données sont échangées. Et puis on a l'Europe, où nous, nos données sont assez éclatées entre différents possesseurs, et où on se dit, c'est quand même dommage. On a une somme de données qui n'est pas partagée entre nous, mais qui nous permettrait d'être au plus haut niveau. Et donc on a des grandes réflexions aujourd'hui sur comment on pourrait créer un statut de la donnée qui permettrait le partage, l'utilisation, pour que l'Europe soit au meilleur niveau sur l'intelligence artificielle.
France Inter, le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Intervenez au 01 45 24 7000. Notre invité ce matin, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique. Question sur les GAFA, question sur l'intelligence artificielle notamment. D'abord, Mounir Majoubi, la question de côté de Patricia Martin.
Oui, j'ai cru noter chez vous un certain goût pour les bonnes choses, pour ce qui se mange. La ruche qui dit oui, c'était vous, à un moment donné vous l'avez dirigé, et vous avez passé un CAP de cuisine. en 2015. Pourquoi nous ?
Parce que la nourriture, c'est aussi la meilleure manière d'être généreux, de partager, d'accueillir et de prendre du temps. Vous avez vu les statistiques récentes qui montrent que la France est un des pays au monde où on passe le plus de temps à manger ensemble.
En général, les garçons qui disent ça, c'est des garçons dont les mères sont plutôt de bonnes cuisinières, non ?
Maman était une très bonne cuisinière, elle l'est toujours, et j'espère en devenir un, et j'espère que c'est important dans ma vie personnelle, et j'essaye aussi de cuisiner aussi régulièrement, même encore aujourd'hui.
Vous avez
au
le temps ?
Une fois par semaine, le week-end, j'essaye de préparer des choses qu'on peut réutiliser toute la semaine, qui est une nouvelle mode de préparer ces plats, ce qu'on appelle le batch cooking aux États-Unis.
Organisé en plus.
Il faut, parce que comme on rentre tard le soir et que j'ai quand même envie de nourrir la maison, il faut préparer des choses.
Un homme organisé. On va aller au standard, Mounir Majoubi, avec une première question, celle de Christian. Bonjour Christian.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Majoubi, je suis Christian Bachet, j'habite Marcy-en-Villette, un village de notre belle Sologne, aux portes d'Orléans. Alors, Frédéric Pommier a rapporté un jeu de mots approximatif, et que ça recommence. Moi, je dirais que la France a gaffé en laissant le virage de l'informatique au GAFA. Bon, c'est approximatif, mais...
C'est un autre jeu de mots.
Ça n'a été dur. Hein.
Bon, votre question.
Alors, plus sérieusement, est-ce que, à votre avis, Monsieur Majoubi, la France, si elle n'arrive pas à nouer de partenariat avec certains voisins européens, comme ça a été fait pour l'Airbus, peut seule tirer son épingle du jeu pour faire plus que tirer son épingle du jeu, pour donner le pion aux Américains, ou vraiment porter haut la main nos couleurs, dans le virage de l'intelligence artificielle.
Alors, avons-nous pris du retard ? Sommes-nous capables de rivaliser avec les géants américains, chinois, indiens, dans ce domaine ?
Eh bien, on a une opportunité avec l'intelligence artificielle, notamment sur les sujets de santé, sur les sujets de transport, sur les sujets d'énergie, sur les sujets de cybersécurité. La France et l'Europe peuvent devenir des champions mondiaux. Vous avez raison, il y a eu des continents, un continent particulièrement, le continent américain, où des acteurs, ces 15 dernières années, ont été plus rapides que les autres sur les sujets des services directs aux consommateurs, les services en ligne directs aux consommateurs. Sur ces sujets aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, il y a une question de responsabilité et il y a une question de concurrence aussi. De savoir, quand on est aussi gros, quand on crée des effets de marché aussi importants, est-ce qu'il n'y a pas des règles qui doivent permettre à d'autres acteurs d'exister ? Si leur existence a pour effet de supprimer toute concurrence possible, toute émergence possible, alors il y a un problème. Et donc ce problème, il faudra y répondre, ça passera par l'ouverture des données, la régulation des données, l'interopérabilité, la gestion des magasins d'applications, la relation avec les PME, tout ça c'est des sujets qui doivent nous permettre d'émerger. Mais on ne veut pas juste émerger, on veut aussi des champions. Et ces champions, il faut être les meilleurs, et pour ça il faut investir dans la recherche, il faut financer cette croissance. Aujourd'hui on a 10 000 startups dans la French Tech française, sur ces 10 000, il y en a quelques centaines qui ont un potentiel d'hypercroissance, de conquête internationale,
et ça là il faut les aider. Un ministère de l'intelligence artificielle, Cédric Villani, le député en charge de ce dossier, estime que ce serait une erreur, car finalement c'est à chaque ministère d'intégrer l'intelligence artificielle. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis profondément d'accord, et vous aurez noté que nous n'avons pas un ministère du numérique, et que je suis bien secrétaire d'État auprès du Premier ministre. 80% de mon travail, c'est travailler avec un autre ministre. 80% de mes missions, c'est de travailler avec le ministre de la Cohésion des Territoires sur le haut débit et la 4G. Travailler avec la ministre de la Santé sur la transformation numérique de la santé. Travailler avec la ministre de la Justice sur comment le numérique va nous permettre d'avoir une justice plus proche, plus efficace. Et travailler avec Bruno Le Maire sur les grandes transformations économiques. Et bien avec l'intelligence artificielle, ce sera le même sujet. C'est comment dans chacun des ministères, comment dans toute notre action, on le porte.
C'est vous qui en auriez la charge à ce moment-là, au sein du gouvernement, de gérer cette intelligence artificielle dans chaque ministère ?
L'intelligence artificielle, elle est multifactorielle. Il y a le sujet recherche publique.
Un coordinateur à un moment.
Il faut bien un coordinateur, ça c'est certain. Mais il y a un grand volet recherche publique, il est à la recherche. Il y aura un grand volet éducation, état éducation. Il y a un grand volet économie, il sera à l'économie.
On va retourner au standard avec une question de Violette. Bonjour Violette.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question ?
Donc ça concerne l'intelligence artificielle, les différentes R&D des grandes entreprises, de plein de grandes entreprises en France sont à fond là-dedans et développent à tout va l'intelligence artificielle. Alors comme l'a dit Mounir Majoubi, c'est pour un bien et peut-être pour un mal, on verra ça. Dans la mesure où les développements sont donc bien avancés, la robotique est maintenant dans les entreprises, les chatbots, etc. Pas mal de métiers dans toutes ces grandes entreprises disparaissent. On disait vont disparaître, mais beaucoup disparaissent d'ores et déjà. Beaucoup de gens sont mis de côté, on va dire, burn-out, etc. Enfin, là, c'est plutôt du bore-out. Et donc, on sait très bien qu'à un moment donné, il n'y aura plus de travail pour tous.
Ça c'est pas votre constat, si, Violette. Si... On a bien compris, Violette, votre constat. Mais quelle est votre question derrière ce constat?
Bon, bah, la question, c'est la grande proposition de Benoît Hamon serait prendre toute son ampleur. Il faudrait effectivement taxer les entreprises de manière à ce que les gens puissent être maintenus chez eux à ne rien faire, on est bien d'accord. Mais
taxer les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle au motif que ça ferait disparaître les emplois. Le point de vue et la réponse de Mounir Majoubi.
La question qui est posée, c'est une des questions essentielles. C'est les transformations de l'emploi dans les années et les décennies à venir. Oui, de très nombreux emplois vont disparaître. Et oui, de très nombreux emplois vont apparaître, mais oui, la majorité des emplois vont se transformer. Et donc face à ça, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité de se dire que de façon pessimiste, de toute façon, il n'y aura plus assez d'emplois pour tout le monde et qu'il faudra taxer les machines et faire le revenu universel à rien faire chez soi. Ou alors on peut dire, en tout cas pour les 5 à 10 ans à venir, le plus grand enjeu, la priorité, c'est les compétences. Et c'est de s'assurer qu'on crée bien les conditions dans chaque entreprise, dans chaque région, au niveau national, de s'assurer qu'il n'y a personne qui, quand il perd son emploi, quand il voit son emploi se transformer, à qui on ne donne pas la compétence et la capacité de le reconquérir, de reconquérir un nouvel emploi et d'avoir les compétences pour le faire. C'est tout l'objet du plan d'investissement sur les compétences, les fameux 15 milliards d'euros pour la formation professionnelle, qui est de dire, aujourd'hui, ceux qu'on doit former en priorité, c'est ceux qui vont perdre leur emploi. Et c'est ça le pari que nous avons fait. Le débat sur le revenu universel, il a eu lieu pendant la présidentielle. Et nous, on a dit, c'est pas le moment. Peut-être que ce sera un sujet dans 20 ans, peut-être que ce sera un sujet dans 15 ans, mais le sujet des 10 prochaines années, c'est la formation et les compétences. Moi, je me bats pas et je suis pas dans ce gouvernement et j'ai pas rejoint cette majorité pour me dire qu'on va taxer les machines pour payer les gens à rester chez soi. Ma seule envie, c'est de payer les gens pour les former, leur donner les moyens de se former.
Mais plusieurs fois dans notre carrière, probablement pour les générations à venir.
Mais évidemment, et c'est très nécessaire. Et vous savez, c'était quelque chose qui existait avant. Ceux qui ont eu une carrière des années 70 jusqu'à aujourd'hui ont généralement, s'ils ont été ouvriers ou employés, étaient obligés de se reformer. Certains ont quitté l'industrie pour aller vers la couture, de la couture jusque ensuite à l'hôtellerie, des industries de services vers d'autres. Ça a toujours été une habitude, la reformation, et on l'a un peu oublié. Et donc il faut revenir aujourd'hui, et c'est notre ambition.
Un mot, Mounir Majoubi, sur l'intox sur Internet. La proposition de loi sur les fake news sera débattue à la mi-mai. Les sites seront obligés de supprimer les contenus haineux, ou en tout cas ceux qui ne respectent pas les valeurs humaines. Mais qui juge que tel ou tel signal émis sur une plateforme doit être supprimé, et surtout selon quels critères?
Mais vous posez la bonne question, parce qu'il y a pas... Le grand sujet, c'est celui du retrait des contenus illicites en ligne. Le retrait des contenus, ça va d'un côté sur les sujets de lutte contre le terrorisme, là c'est facile. Quand on voit un contenu terroriste, il n'y a pas grand monde pour dire non, celui-là il faudrait le laisser, on supprime directement. À l'opposé absolu, il y a le contenu de type journalistique. Lui, c'est très compliqué. C'est impossible même de dire c'est vrai, c'est faux. Donc la question autour de des fake news, c'est quelles conditions pour la transparence, pour avoir plus d'infos, savoir qui a payé, comment c'est financé et quels sont les objectifs, ce sera ça. Mais entre les deux, vous avez des centaines de contenus sur la haine en ligne, le harcèlement en ligne, sur lequel aujourd'hui on n'a aucun outil face aux plateformes. Où on est en collaboration, donc parfois elles font bien les choses, elles font vite les choses, mais les Allemands en ont eu assez d'attendre et ont dit, eh ben on va faire notre loi nous-mêmes. Eh bien,
avec la loi française, qu'est-ce qui va changer demain?
Eh bien, le président de la République l'a dit, alors il y a d'un côté une loi sur fake news, et puis de l'autre côté, une réflexion qui a été lancée par le président de la République la semaine dernière, une mission qui a été confiée à monsieur Taïeb Amelal et madame Avia en disant, aidez-nous à identifier quels seraient les meilleurs outils, juridiques ou non, pour supprimer les contenus de haine en ligne. C'est terrible d'avoir un contenu antisémite ou raciste qu'on a signalé à la plateforme et de le voir durer. Parce que chaque heure où il reste, c'est la victime qui en pâtit.
Le temps passe. Je vous pose une dernière question qui concerne l'équipement numérique des TPE et PME en France. La France, très en retard, 16e, je crois, au niveau européen dans l'équipement numérique. D'abord, pour quelles raisons? Et ensuite, comment on résout ça?
Vous avez raison. On est très en retard pour les TPE-PME dites de l'économie traditionnelle. Mais là où c'est extrêmement important ce sujet, c'est que ces TPE-PME, c'est 50% des emplois. Donc ces TPE-PME, si on les aide pas à faire leur transition numérique, c'est 50% des emplois de France qui vont pas suivre cette transition numérique.
Donc vous allez solliciter les régions, les banques ?
On a travaillé avec les régions, avec
pour
les banques.
Pour former les TPE ?
Pour identifier ce qu'elles pourraient faire, et on veut pas leur demander de faire de la blockchain dans le cloud pour vendre en Chine.
Blockchain
leur
dit, pour le cloud, on va expliquer.
C'est fait exprès, j'ai fait exprès de dire ces mots. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les injonctions faites aux PME en leur disant, soyez des hyper innovateurs. On va leur proposer de faire des premiers pas numériques. On va dire aux commerçants de proximité, bah, au moins soyez présents en ligne pour dire que vous existez. Ça va être ça. Et l'idée, c'est de les aider et de les financer. Et ça, on l'annonce dans quelques semaines.
On est en retard, mais j'ai encore un dernier mot. La 5G, c'est dans les tuyaux en France ou pas?
La 5G, c'est dans les tuyaux. Et surtout, la 5G, c'est très important. Sans la 5G, on fait pas la voiture autonome. Et tout à l'heure, je vous ai dit, la voiture autonome, c'est plus de sécurité, meilleure consommation énergétique. Sans la 5G, on téléchargera pas. La 5G, c'est 1000 fois plus rapide qu'aujourd'hui. Ça veut dire 1000 fois plus d'usage.
Merci Mounir Majoubi, secrétaire d'État au Premier ministre chargé du numérique. Merci d'être venu le dire ce matin sur France Inter.